Les idéologues, Cabanis, Destude de Tracy, se réclament aussi de Condillac. Ils reprennent les problèmes de la psychophysiologie et de la psychologie dans un esprit où se retrouvent les traits essentiels de notre esprit classique. Désintéressement, patience, scrupule. Mais au terme de leurs travaux, à cause même de leur minutie et de leur probité, un doute s'élève. Les procédés qui ont réussi pour l'étude des objets des sciences naturelles suffisent-ils à épuiser la connaissance de l'homme qui exerce par rapport à elle la fonction du sujet ? La question ne cesse d'occuper le penseur français le plus original de la première moitié du XIXe siècle et qui précisément a traversé l'école idéologique, Maine de Biran. Le journal de Biran montre, au point de départ de sa spéculation, comme une reprise de l'entretien sur Épictète et sur Montaigne. L'homme est un être successif, qui ne saurait accepter cependant de s'échapper à lui-même dans son invincible mobilité. Ce que Biran attend de l'analyse psychologique, c'est la révélation d'un fait assez profondément enraciné dans l'être du moi pour en assurer la cohérence et l'unité à travers la dispersion du temps. Que ce fait s'apparente au cogito cartésien, Biran s'en est bien rendu compte, mais le prestige de ses premiers maîtres l'a entraîné à dévier vers la recherche d'une expérience pure. Il a pensé à rencontrer dans le sens intime de l'effort, découvert à titre de données spécifiques, jusqu'au jour où il s'est convaincu de la vanité de son espérance. Comment une méthode qui ferme son regard au développement autonome de la raison, qui veut être strictement empirique, nous permettrait-elle de rien saisir au-delà du flux mouvant des phénomènes ? La carrière de Biran s'achève par une seconde philosophie, qui à vrai dire transcende la philosophie qui a été conçue dans le commerce familier de Pascal, auquel s'ajoutait la méditation attendrie de saint Jean, de l'imitation de Fénelon. À l'oscillation entre stoïcisme et christianisme, succède l'hésitation pour se prononcer entre la dureté de l'exercice dans l'attente humble de la grâce et la possession mystique dans la joie et dans l'unité. Biran est par excellence de ceux auxquels allait le cœur de Pascal, parce qu'il cherche en gémissant. Du moins, son anthropologie exprime-t-elle avec force l'aspiration à une troisième voie. Par l'action de principes qui viennent de plus haut, l'homme se divinise, vie symétrique et contraire de la première où il s'animalise, tandis que le plan moyen est celui de la conscience claire et proprement de l'humanité. Chose curieuse et tout à fait significative de la pente que va suivre désormais le XIXe siècle, le problème d'une seconde philosophie chez Auguste Comte, si dissemblable de Biran à tant d'égards, témoignera, lui aussi, d'un total retournement de pensée. Le positivisme connaîtra l'aventure qui a été jadis celle du pythagorisme, lors du schisme entre mathématiciens, capables de cultiver par leur compte l'art de la vérification rationnelle et acousmatique, qui ont fait vœu de se conformer aveuglément à la parole du maître. Sous le nom de positivisme, Comte a professé tantôt une doctrine d'école, tantôt une doctrine d'église, qui s'oriente en sens inverse l'une de l'autre. Ici et là se manifeste un égal souci de définir sans équivoque les notions fondamentales, objectivité de l'analyse, subjectivité de la synthèse, cours spontané du progrès, tradition récurrente de l'ordre. Mais ici et là, quand il s'agit de dresser le tableau des valeurs auxquelles s'attachent les deux carrières d'Auguste Comte, tout devient de la première à la seconde, expressément, implacablement, contradictoire. Comte avait commencé par revendiquer l'héritage spirituel de Condorcet qui faisait fond sur l'essor indéfini des sciences pour le service et le salut de l'humanité. Généralisant la thèse de la nécessité du progrès que Pascal et Fontenelle avaient développée, il emprunte à Turgot la formule de la loi des trois états, théologique, métaphysique, positif. La positivité se définit par référence à l'idée mère de la mathématique cartésienne. Connexion étroite, relation mutuelle entre la rationalité abstraite de l'algèbre et la réalité concrète de la géométrie. Et Comte pousse si loin le culte polytechnicien de la géométrie analytique qu'il s'acharne à proscrire, comme suspect d'introduire la finesse dans une discipline de déduction pure, le calcul des probabilités, où Condorcet avait, de façon si généreuse et si perspicace, reconnu l'instrument par excellence d'une organisation juste de la société. Il semble donc que pour situer l'homme à son rang dans le monde, pour lui communiquer l'intelligence de son histoire, il n'y ait rien d'autre à faire que de suivre, de domaine en domaine, la marche triomphante de cette réduction convenable du concret à l'abstrait qui apparaît constitutive de l'esprit positif. Comte cependant a dû subir dans sa vie douloureuse le même désenchantement que son maître Saint-Simon, et renoncer comme lui à mettre son espoir dans le pouvoir spirituel des savants. Vainement, il avait attendu que la conscience qui règne entre eux et qu'ils méritent d'inspirer au peuple les mette en état de supprimer les désharmonies qui naissent de la pratique de la liberté de conscience et qui ont ruiné l'œuvre de la Révolution. La société se régénérera par l'altruisme opposé à l'égoïsme, dont Comte ose insinuer que la recherche désintéressée de la vérité serait une forme raffinée, comme la synthèse est opposée à l'analyse et l'ordre au progrès. Le renversement du pour au contre est donc complet. Je trouve bon, disait Pascal, qu'on n'approfondisse pas l'opinion de Copernic. Mais ceci, il importe à toute la vie de savoir si l'âme est mortelle ou immortelle. Or, la première philosophie de Comte considérait la constitution d'une astronomie positive comme un événement de portée capitale. Le système théologique tout entier et la métaphysique qui en procède s'écroule dès le moment où la preuve est certaine que notre Terre a cessé d'être le centre de l'univers. Aussi bien l'Inquisition a-t-elle témoigné qu'elle en avait l'exact sentiment quand elle s'est avisée de condamner Galilée. Avec la seconde philosophie de Comte, les rôles sont intervertis. Sans doute est-il advenu qu'un successeur de Galilée, qu'un disciple de Newton, était assez heureux pour inférer de ses calculs la place du ciel où devait se rencontrer la planète inconnue qu'on appellera Neptune. Mais ce n'est là, aux yeux de Comte, qu'une prétendue découverte, intéressant tout au plus les habitants d'Uranus. La morale désormais prescrit à la raison d'étudier le monde, non pour lui-même, mais pour l'humanité dont il faut avant tout se préoccuper de préserver l'avenir contre la menace d'une nouvelle révolution. La perspective dynamique de l'avenir est sacrifiée à la considération statique du passé, qui s'achève dans un recours systématique vers le catholicisme médiéval, et par-delà le catholicisme même, vers la superstition pythagoricienne des nombres sacrés, vers un réveil du fétichisme divinisant l'espace, la terre, l'humanité. Assurément, cette imitation fantasque des cérémonies du culte et des formules du catéchisme demeure très éloignée de la religion pascalienne. En fait, l'auteur de la législation primitive et l'auteur du livre du pape, protagoniste de la théocratie totalitaire pour laquelle Comte abandonne Condorcet, occupe dans l'Église l'extrême contraire de celle où se viennent ranger les provinciales et les pensées. Il reste pourtant que le conformisme de l'institution comtiste correspond, d'une façon très précise, à l'automatisme de gestes et de pratiques que commande en première instance la solution mathématique du pari. L'action de Pascal sur la philosophie française va s'accentuer dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle se développera du dehors au dedans, favorisée par la publication intégrale de son manuscrit, due à Victor Cousin et à Prosper Fogère, et qui a fait de lui comme un de nos contemporains. Nous rencontrons ici les noms qui nous sont le plus familiers. Ravaisson, qui se plaît à découvrir les convergences possibles derrière les antithèses apparentes, rapproche la volonté dont Descartes faisait la source du jugement et le cœur auquel, selon Pascal, l'intelligence emprunte les principes qui lui permettront de dérouler la chaîne de ses démonstrations. D'un tout autre point de vue, Jules Lequier et Renouvier, puis Jules Lachelier, portent leur attention sur l'argument du pari. Envisagé en lui-même, il leur suggère le moyen, soit de trancher les antinomies, au risque de se perdre un idéalisme purement phénoménal, soit de suppléer à la consistance des preuves classiques de l'existence de Dieu. Avec la génération suivante, le courant pascalien pénètre plus avant dans la structure des doctrines profondes qu'ont livrées à nos constantes méditations Jules Lagneau, Henri Bergson, Frédéric Roux, M. Maurice Blondel. À travers l'originalité de leur rythme intérieur, quelque chose les maintient en sympathie mutuelle, qui ne saurait s'exprimer par des formules simples. Quelque chose qui est l'accent de Pascal, et que nous reconnaissons à leur manière de mettre en rapport religion et souffrance, instinct et amour, expérience et sentiments, immanence et transcendance. Au premier abord, du moins, la parenté serait encore plus étroite avec le mouvement de romantisme existentiel qu'a déclenché dans l'Europe d'aujourd'hui le crédit accordé à l'œuvre de Søren Kierkegaard, Le goût du paradoxe, le cri de désespoir, institué en permanence, rejoignent d'une manière frappante les mots de Pascal. Notre religion est sage et folle, contre le sens commun et la nature des hommes. Une différence pourtant est qui est décisive. Tandis que Kierkegaard s'est violemment séparé d'une civilisation à laquelle il a pris le parti de rester étranger, le génie créateur de Pascal en avait assuré le progrès dans des travaux qui, par-delà les siècles, demeurent propres à stimuler et à orienter la méditation des philosophes. C'est de quoi fournissent un témoignage frappant les œuvres d'un Augustin Cournot et d'un Émile Boutroux. Avec eux, la finesse critique l'emporte à nouveau sur le dogmatisme géométrique. Le calcul des probabilités qu'Auguste Comte avait en exécration est appelé par Cournot non seulement à transformer l'économie politique en discipline positive, mais à mesurer avec exactitude et scrupule la portée de ce qu'il est légitime d'affirmer en science, en histoire, en métaphysique. Comte refusait d'incliner la majesté de la loi, la rigidité d'une formule simple, loi de Mariotte ou loi de Newton, devant la réalité complexe du fait expérimental. Émile Boutroux, Partant de cette proposition pascalienne que le mécanisme est vrai seulement en gros, soutient le droit irrécusable de l'événement singulier en face de la généralité abstraite, ce qui n'ébranle nullement le déterminisme causal, mais ce qui préserve l'esprit contre le danger de s'emprisonner dans les cadres qu'il a préparés en vue de capter les phénomènes de l'univers, alors qu'il doit se réserver de les assouplir et de les refondre sans cesse pour serrer de plus près la subtilité infinie du réel. Cournot meurt en 1877. La thèse de la contingence des lois de la nature est de 1874. Il serait superflu de rappeler par quel détour surprenant la science authentiquement positive est venue en ratifier les anticipations qui allaient délibérément à l'encontre des préjugés des savants d'alors. Einstein invente librement, comme il se plaît à dire, une théorie de la gravitation qui corrige les approximations de la formule newtonienne grâce au remaniement total des notions de temps et d'espace. La doctrine de la relativité fait justice du réalisme de la loi scientifique, comme le système de Copernic avait fait justice du réalisme de l'apparence sensible. Par la découverte de la mécanique ondulatoire, M. Louis de Broglie consacre l'avènement d'une physique des probabilités qui s'engage dans une course vertigineuse à la recherche des éléments du monde, triomphe de la science telle que Pascal l'a conçue, mais dont il serait pourtant injuste d'exclure l'inspiration cartésienne. Et la remarque pourrait être de grandes conséquences pour un heureux dénouement de la trilogie où se sont affrontés sous nos yeux les purs génies du doute, du savoir et de la foi. Nous avons déjà dit que l'onde corpusculaire se découvrirait un ancêtre dans le tourbillon des principes. D'autre part, il ne convient pas que l'échec de Descartes mécaniste ombrage la victoire du Descartes analyste. Le développement de l'atomistique contemporaine exige qu'on abandonne tout espoir de représentation spatiale, qu'on se fonde uniquement sur le jeu des équations, c'est-à-dire qu'on s'avance dans la voie de l'idéalisme, que Descartes avait ouverte par la création de l'algèbre en tant que discipline autonome, mais qu'il avait délaissée afin d'édifier le système d'un mécanisme universel. Voilà donc que, par le bienfait d'un nouveau renversement du pour au contre, la conception pascalienne de la science irait à notre secours pour nous sauver d'un cartésianisme dégénéré qui, à l'exemple du positivisme, s'interdirait de réfléchir sur ses propres principes et pour susciter l'idée d'un cartésianisme généralisé, capable de comprendre dans l'unité de la méthode les aspects indéfiniment divers du savoir et de les rattacher du dedans aux plus lointaines aspirations de l'âme. Un semblable mouvement pourrait atténuer, sinon faire disparaître le péril de la dissociation introduite par Pascal au sein de cette grandeur qu'il a déclarée « invisible au roi, au riche, au capitaine, à tous ses grandes chairs » et qui risque en effet de contredire son essence tant qu'elle demeure divisée contre soi, comme s'il était légitime de croire qu'il y a d'un côté définitivement esprit et vérité, de l'autre sagesse et charité. Là comme ailleurs, là surtout, le devoir présent est de rechercher, de recréer, l'unité sainte de la tunique sans couture.